en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Cher Henri, merci de tes mots. J'y suis évidemment extrêmement sensible. Nous nous connaissons peu et lorsque je me suis tourné vers toi, j'ai voulu m'adresser autant à l'homme qu'à son parcours. Conservateur du patrimoine, directeur du musée d'Orsay, président du Louvre pendant de longues années, pour reprendre ensuite ton chemin, celui d'un homme libre. Attentif, curieux, audacieux, ton action au sein de ces prestigieux établissements que tu as dirigés a démontré ta capacité à enjamber les époques, les mesurer, les comparer, les apprécier. Il semblerait que tu fais toujours ce qu'il te plaît, même au mois de mai, avec ce grand retour parmi nous, les académiciens. Cette liberté de ton, de choix, d'attitude, je viens ici la partager avec vous. Heureux d'être parmi vous, élu par mes pairs, au fauteuil du regretté Zawoki. Ce grand artiste avait une grande affection pour l'Académie. Cette reconnaissance l'honorait et il était très fier d'appartenir à notre compagnie. C'était pour l'artiste étranger qu'il était un point de repère, un point d'ancrage précieux que je perçois aussi aujourd'hui parmi vous. Ce qui me relie à Zawoki, c'est avant tout l'appartenance au monde dans son ensemble, le goût de l'aventure, une certaine obstination, celle qui nous permet d'être présents dans chaque instant de notre vie pour assumer la liberté de nos choix, la diversité des cultures, la passion de l'art, mais aussi celle des artistes. Zawoki est aujourd'hui reconnu dans le monde comme un très grand peintre. Dans ce monde dit global, où les artistes sont pour la première fois évalués davantage peut-être pour ce qu'ils sont que pour ce qu'ils représentent, les artistes s'émancipent aujourd'hui au-delà des barrières géographiques et culturelles. Une vraie révolution est en train de s'opérer sous nos yeux, la dispersion est de mise, les artistes apparaissent comme des éclaireurs dans un monde nouveau. Le général Diab disait « quand l'ennemi se concentre, il perd du terrain ». Quand ils se dispersent, ils perdent la force. C'est vrai dans un temps donné sur un champ de bataille. En revanche, la dispersion et la diversité de la production artistique dans le monde d'aujourd'hui font basculer les certitudes. L'art et les artistes occupent dorénavant une place particulière dans le monde. N'en déplaise à ceux qui pensaient détenir une vérité, les critères d'évaluation sont à revoir, les rattrapages historiques vont se multiplier. Aujourd'hui, il vaut parfois mieux être un artiste de Caracas plutôt que de Saint-Étienne, de Pékin plutôt que de Madrid ou de Rome. Nous nous trouvons face à des perspectives inversées, ce qui demande à l'amateur d'augmenter d'un seul coup son champ de connaissances, sa capacité de jugement et son esprit critique bien au-delà des effets de mode. L'art international, à mon avis, va disparaître, comme les artistes dits internationaux. Zawoki n'a jamais été un artiste international. Il est passé directement dans la catégorie supérieure qui la remplace, l'universalité. Ces nouveaux artistes du monde ne renient rien, bien sûr, de leurs racines. Zawoki a toujours su ce qu'il devait aux grands anciens, tout en rejetant toute forme de domination, d'assimilation ou d'influence protectrice. Il n'a jamais appartenu à aucune école, et si la Chine, aujourd'hui, le revendique et le célèbre, ce n'est pas simplement parce qu'il est un peintre franco-chinois, mais aussi et surtout parce qu'il incarne pour ce pays une vision moderne et universelle du monde. En cela, Zawoki est un pionnier, et la reconnaissance va toujours à celui qui a su s'affranchir des modèles pour créer un nouvel espace en affirmant une puissance et une liberté sans pareil. Le prix de cette liberté, la solitude. Mais dans son cas, une solitude tournée constamment vers les autres, une solitude parmi les autres. Plus que des solitudes, les artistes, à mon avis, sont des îles qui n'appartiennent à personne, des plaques tectoniques qui dérivent et passent devant nos yeux. Elles s'entrechoquent, parfois disparaissent ou se stabilisent pour émettre jusque dans la nuit du temps, dans la nuit des temps. Durera celui qui se tient à sa place. Voilà un adage taoïste très cher à Zhao Qi, que je partage. Durera celui qui se tient à sa place. Dans un entretien avec Françoise Marquet, ici présente, que je salue, pour son grand dévouement à la diffusion de l'œuvre de son mari, et Dieu sait si les veuves d'artistes ont du mérite, Françoise me dit qu'un jour de l'année 2005, le peintre lui assène « J'arrête de peindre, j'ai perdu le chemin du monde invisible ». Cette phrase dit la différence de Zhao Qi avec les autres peintres de son époque. Peindre pour lui n'est pas un métier, mais une profonde nécessité, un parcours spirituel, celui d'un homme qui poursuit un chemin de l'intérieur. Son œuvre n'est pas programmatique ni conceptuelle. Zhao Qi ne semble pas avoir de plan préalable. Il est certainement l'un des derniers grands artistes à accéder à l'innocence. Zhao Qi n'est pas bavard. La plupart du temps silencieux, gentil et accueillant, il n'aime pas parler de son travail. Peindre lui suffit. Ses tableaux le guident. Il témoigne de sa recherche, difficilement soluble dans un monde qui s'organise et qui ne veut surtout rien manquer. Son art vient du monde. Il y retourne. C'est un long chemin fait d'aller-retour pour l'approcher, le saisir, le goûter. Zhao Qi intériorise au point de nous restituer sa vérité sous la forme du merveilleux. Très belle tentative d'effacement du peintre pour révéler le monde des formes de l'intérieur. Toujours tourné vers le dedans, avec une grande pudeur et cette volonté, malgré le chaos et la violence, de retrouver une certaine harmonie. Son œuvre, à la fin, voudrait nous révéler le résultat d'un combat et pourquoi pas une fin apaisée. Henri Michaud, son ami, dira de ses œuvres qu'elles sont bénéfiques. Belle expression, au demeurant si peu moderne, mais qui a le mérite de mettre en avant les grandes ambitions du peintre. L'artiste n'apparaît pas comme un deus ex machina, il peut se saborder à tout moment. L'œuvre de Zhao Qi est autant un laboratoire qu'un conservatoire. Michaud dit aussi « C'est par la nature que Zhao Qi se meut, se montre qu'il est abattu, qu'il se ranime, qu'il tombe, qu'il se relève, qu'il est enthousiaste, qu'il est tout pour ou bien tout contre, qu'il est bouillonnant, qu'il dit ce qu'il étouffe. La grande modernité tient à ce que le regardeur reste le seul responsable de ce qu'il regarde, comme dit Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau, je rajouterai le fait ou le défait. Zhao Qi est irresponsable. Il ne cherche pas à nous convaincre, ses tableaux nous accompagnent plus qu'ils ne s'imposent. C'est en cela qu'ils sont bénéfiques. Dans les derniers tableaux du peintre, le monde s'apaise. Une harmonie est possible alors que tout au long de ce chemin, on assiste souvent à un corps à corps, à la lutte de la vie contre l'anéantissement. Le peintre ne manque jamais de faire figurer le vide. Zhao Qi a la force de croire à l'art avant toute chose. Il croit à la victoire de l'art qui guérit, à l'art qui sauve. Son parcours est long et solitaire. Ses tableaux seront jugés par certains comme trop figuratifs ou trop abstraits, trop chinois, pas assez européens. Mais que représente aujourd'hui l'Europe parmi les continents ? Zhao Qi s'abreuve aux sources plurielles qui le constituent. Alors ce petit chez-soi que l'on préfère au grand chez les autres n'a plus de sens. Pour Zhao Qi, rien n'est assez grand. Ses peintures nous donnent le tournis comme celles de Turner en leur temps. La vérité dans la démesure. C'est aussi le Zhao Qi parfois tellurique. C'est vrai, il a choisi à certains moments de nous montrer des espaces élémentaires secoués par la violence du monde. Et c'est avec la plus grande des jubilations qui n'appartiennent qu'à lui qu'il n'a pas craint de peindre des lieux mythiques, archétypaux, des montagnes, des nuages, des fleuves, des vagues, des brumes. On les voit, on les imagine, on les scrute, ils s'évaporent. Il nous en propose des pans entiers, des diptyques, des immenses polyptyques, ou alors des fragments, réminiscences de la peinture chinoise, même si Zhao Qi détestait ce qu'il appelait les chinoiseries. Il mettra du temps à trouver le juste équilibre qui a fini de hisser sa peinture pour la rendre universelle. Personnellement, j'ai toujours été intéressé par les œuvres de jeunesse et de vieillesse des artistes. Et chez Aoki, ce sont celles que je préfère. La fraîcheur des jeunes années, la conquête suivie d'un cortège de batailles pour affirmer son territoire jusqu'à l'accomplissement du geste dans la plus grande sérénité, dans la plus grande simplicité, qui synthétise et définit tout. Pour paraphraser Claude Roy, en parlant de Aoki, les bons peintres rajeunissent en vieillissant. C'est son cas. Alors, reprenons les choses dans l'ordre et remontons le temps. Aoki, de son nom Zhao, est né à Pékin un 1er février 1920. Il est l'aîné d'une famille de 7 enfants. C'est une ancienne famille qui remonte à la dynastie Song, famille d'intellectuels cultivés, où la peinture est à l'honneur. Son père est banquier, Zhao Aoki est doué. Il se passionne pour la littérature, l'histoire, tant chinoise que mondiale. Il dessine très jeune, peint aussi. Sa vocation surprend, mais n'est pas contrariée par sa famille. Il apprend la calligraphie auprès de son grand-père. Et quand le jeune homme eut terminé ses études secondaires, il décide de refuser de rentrer à l'université et demande à sa famille d'intégrer les beaux-arts. La Chine, en ce temps-là, est traversée par des événements tragiques, sans précédent. La Chine bascule, elle est aux mains des seigneurs de la guerre. L'insécurité est partout, la violence règne. On s'entretue avec la plus grande cruauté, on décapite. Le jeune Aoki est terrorisé. Il n'est pas rare de voir dans les rues des pendus aux arbres, d'assister à des exécutions et de voir des têtes roulées au sol au milieu des giclées de sang. Brigandage, pillage, révolte contre la misère et la présence des étrangers qui colonisent le pays. La famille Zhao, pourtant très riche, est scandalisée par la corruption du régime de Chiang Kai-shek et croit à la longue marche de Mao Tse-tung, espérant que la Chine connaisse enfin autre chose que la famine, les colonisations brutales, celles des Japonais, comme celles tout aussi arrogantes des Anglais. La présence française, de son point de vue, semble plus acceptable, et c'est pourquoi le jeune Aoki choisira notre pays au moment de partir. À cette époque, l'enseignement en Chine est très traditionnel. Autant pour la peinture occidentale que chinoise, Zhao Aoki s'ennuie d'un tel académisme et recherche la légèreté, la fraîcheur, celle des impressionnistes français bien sûr, mais découvre aussi les œuvres de Cézanne, Matisse et Picasso. Doté d'une grande force de travail, Zhao Aoki passe son temps à copier les maîtres occidentaux, essayant de comprendre cette autre manière de peindre, de dessiner, de poser la couleur. La guerre terminée, il demande à sa famille l'autorisation de partir à Paris pour se confronter à ses modèles, qu'il admire, et juger sur place de leur pertinence dans son propre discours. Zhao Aoki décide de quitter cette Chine malade, qui aspire à autre chose et qui idéalise un nouveau modèle où l'art n'a pas sa place. Artiste, il veut créer son chemin qui n'appartient qu'à lui-même. Il ne veut pas courir le monde avec le souci premier de rendre visible à sa manière ses passions et ses tourments. Et c'est avec une curiosité rare et une grande modestie qu'il arrive à Paris, s'y installe et s'immerge dans ce monde artistique riche en personnalités en tout genre. Il aura la chance ou la manière de reconnaître les meilleurs et de se les attacher. Il aura cette omniscience de célébrer la vie avec des créateurs de talent qui savent que le monde les dépasse. Quand Zhao Aoki fait le portrait de quelqu'un, le sujet n'est pas cette personne, mais les relations qu'il entretient avec cette personne. Il est naturel pour lui d'entretenir des relations d'admiration avec les poètes, les peintres, les penseurs. Il n'y a pas en lui ce concentré de vanité qui pourrait l'en empêcher. L'art de Zhao Aoki est tissé d'amitié, de partage et d'hommage. Cette grande force intérieure ne lui fait rien craindre des autres et c'est avec la plus grande des élégances qu'il creuse son sillon, bâtit des ponts et jette des passerelles entre les mondes. Zhao Aoki a besoin pour peindre d'un grand isolement, d'où la nécessité de travailler dans un univers confiné, son atelier sans fenêtre à la lumière zénitale éclairée par le ciel, un caisson sensoriel dans lequel le peintre s'immerge quotidiennement. Il y réfléchit de longues heures avant de se résoudre à passer à l'action. Son travail est lent, comme est lente la mise en place des formes incertaines, enrichies du monde extérieur, comme un orchestre symphonique imaginaire composé de poètes, de peintres, de musiciens, de René Char à Henri Michaux, de Soulages à Riopelle ou Hartung, de Varèse à Pierre Boulez. Zaouki se félicite de peindre. Son monde est aérien, il aime la vie. Ses amis encore de ce monde me le diront, il aimait la célébration. Jean Lescure lui criera ces magnifiques mots, modeste, souriant, tout en élégance, on est content que tu existes. Avec toi, on se plaît, on aime ce que tu fais, ce que tu aimes, ce que tu es. Dominique de Villepin me dira, on ne peut aimer sa peinture sans aimer l'homme. Il y a là une adéquation bien particulière, qui reflète une époque passée. Ma propre génération ne peut qu'admirer ce temps où les artistes vivaient plus ensemble, toutes origines et disciplines confondues, tous présents lors des vernissages, comme en témoignent ces photographies qui nous montrent des groupes joyeux qui savourent le fait d'être ensemble. À cette époque, les relations entre artistes étaient plus simples, étaient plus directes, sans hiérarchie aucune. Ce qui primait au-delà des partis pris, c'était l'estime que l'on avait pour les uns et pour les autres. Zaouki fait la cuisine, joue beaucoup au tennis, partage le goût des voitures de sport avec son ami Riopelle. Jean-Michel Meurice se souvient du bleu de sa Mercedes. Il voyage de ce grand tour aux États-Unis avec Pierre Soulages et sa femme Colette. On sait et on se taira sur les peines et les tragédies que tout homme traverse dans sa vie amoureuse. Zaouki en aura sa part, des moments de détresse qui se conjuguent avec des bonheurs et des passions qui culminent dans ce bouleversant hommage à sa dernière compagne Françoise. Magnifique peinture où éclate la joie de vivre. Des hommages, il n'arrêtera pas d'en produire. Plus de 25 peintures rendront hommage à ce qu'il admire. Attitude proche de l'effacement qui lui permettra d'atteindre une forme de sagesse supérieure. De la copie des maîtres à ses débuts, il prend le tournant de la peinture abstraite dans les années 50, où il se découvre une grande proximité stylistique avec Paul Klee. Il doit franchir des seuils. Il ne craint pas de faire coexister les cultures et préfère ignorer les différences ou possibles incompatibilités pour inventer son propre langage, une vision toute personnelle du monde. Les tableaux de Zaouki ne racontent rien. D'ailleurs, il n'aime pas parler de sa peinture, ni l'expliquer. Et c'est vrai qu'au fond, elle se passe de mots. Zaouki sait que la peinture chinoise demande une grande agilité du regard, ce qui n'est pas très européen. Pour lui, un tableau se regarde et se parcourt. Il disait d'ailleurs que les livres étaient ennuyeux à lire, alors qu'en peinture, le spectateur va comme il veut et décide visuellement de son trajet dans l'espace du tableau. Au premier regard, les peintures de Zaouki ressemblent à des paysages. Pourtant, le peintre n'aime pas les paysages. Ses peintures n'en sont pas. En sont presque. Chez Zaouki, nous sommes confrontés à des univers plus larges, où sont représentés de multiples espaces, qui glissent et s'enchevêtrent, sans repères, sans architecture visible. Ces tableaux sont en constante expansion. La nature est là, ou plutôt, elle semble être là. On la perçoit, on la reconnaît. Puis, elle disparaît, elle n'est plus là. Ce doit être elle, pourtant, soudain, elle n'est plus détaillée. Elle s'évanouit et se fond dans la lumière aveuglante et dans la couleur qui se fige. Zaouki insuffle la vie à la couleur. Il fait de la couleur un véritable langage. Les stridents sont nombreuses et la couleur déborde souvent et pénètre librement au-delà des figures. Son refus de peindre, d'après nature, est significatif, même s'il commettra quelques aquarelles sur le motif au moment de sa vie. Il préfère s'abstraire du modèle. Il ne copie pas, il n'interprète pas. La nature n'est pas non plus son seul modèle. Je suis, tu es, il est, nous sommes, ces modèles comme faisant partie d'un tout. Le tableau n'a pas besoin d'être reconnu, n'a pas besoin de titre. Zaouki n'a pas de sujet. Il embrasse le monde et le célèbre. Et pour cela, tous les moyens techniques sont utilisés pour rendre chaque tableau brillant et sonore. Zaouki est à la fois le chef d'orchestre et l'instrumentiste. Il maîtrise tous ses outils de peintre avec talent. Doué d'une grande dextérité, c'est aussi un virtuose. Dans ses tableaux vibre la lumière et souffle le vent. De son apprentissage de peintre et de calligraphe, il multiplie les mouvements et les déliés de ses pinceaux dont les traces sont quasiment invisibles. Travail minutieux, couche par couche, pour nous révéler et faire surgir de vastes plages liquides immenses. Superposition, chevauchement, recouvrement, transparence, coulée libre, qui permet de faire passer la lumière d'une sombre obscurité à l'éblouissement. Pour parachever l'apprentissage du maître, j'espère que ces simples mots provoqueront chez vous le furieux désir de découvrir les grands formats qui seront exposés à la fin du mois de mai au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Laissez-moi encore vous présenter maintenant ici sur nos écrans un de ses plus beaux tableaux qui me touche particulièrement. Synthèse réussie de son long parcours, tableau que je qualifierais d'universel, il est modestement intitulé « Hommage à Matisse ». Cette toile est admirable et reprend le thème de prédilection de Matisse, la fenêtre. Quatre larges bandes de couleurs, si bien brossées, encadrent l'immensité, le vide cosmogonique, la grande fenêtre sur l'abîme, la recherche de l'ineffable et de l'intemporel. J'imagine que c'est en traversant cette grande obscurité qui hanta l'artiste et qui nous hante encore tous aujourd'hui que le peintre a trouvé son chemin et réuni l'impensable. Merci, Wookie.